Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h à Bamako, la même heure partout au Mali. Mesdames, messieurs, bonjour, voici les informations. C'est parti depuis hier pour la 9e édition du festival Ogobagna. L'événement est placé sous le thème « La contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali ». Le prix de la viande bientôt en baisse au Mali. Le gouvernement et les acteurs de la filière bétail se sont rencontrés la semaine dernière pour fixer un prix consensuel avant le mois de Ramadan. Cannes Côte d'Ivoire 2023, la troisième journée de la phase de groupe a débuté hier lundi. Les consultants estiment que ces matchs seront décisifs pour les équipes. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mamadi Keïta sur la mise en œuvre de la 9e édition du festival Ogobagna s'est ouverte hier lundi à la place du cinquantenaire de Bamako. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Cette année, le thème choisi est la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. Après la cérémonie d'ouverture, les festivaliers ont eu droit à une soirée de cohésion sociale. Mamadi Baba Kunta pour les détails.
Comme chaque année, ce festival est organisé pour mettre l'accent sur le rôle de communauté dans le renforcement de la résilience, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Durant une semaine, plusieurs activités sont au programme de ces rendez-vous culturels. Il s'agit des conférences débats, des défilés des masques d'Ogon et des expositions d'objets d'art, des visites guidées entre autres. Pour les organisateurs, il s'agit d'asseoir un concept événementiel mobilisateur de communautés culturelles. C'est ce qui montre que le festival culturel Ogobagna est un festival de la fraternité et du brassage des cultures. Et ce lundi, le public a surtout été marqué par le style vestimentaire des festivaliers tirés de la riche culture d'Ogon et des troupes traditionnelles. Notons que le festival Ogobagna met toujours en scène la crème des artistes et musiciens maliens pour égayer le public. L'événement se poursuivra jusqu'au 28 janvier prochain.
Cette année, l'honneur revient à la communauté Boa, choisie comme invitée d'honneur de ce festival. Ses représentants se réjouissent de choix portés sur cette communauté. Pour Blaise Kamaté, représentant de la communauté Boa, ces genres d'événements ont une place importante dans la consolidation du vivre ensemble et contribuent au retour de la paix. Il est au micro de Mamadi Baba Kunta.
Le fait que nos frères Dogon nous ont choisi cette année comme communauté invitée d'honneur, c'est d'abord un honneur. Donc c'est vraiment un sentiment de joie et nous sommes en train de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour aider cette communauté à réussir cet événement. Notre approche est vraiment apporter tout ce que nous pouvons, que ce vivre ensemble, cette cohésion sociale puisse être réellement une réalité. On peut s'attendre à beaucoup de choses, surtout du côté des prestations artistiques et autres. Je profite déjà de votre micro pour demander à l'ensemble du peuple malien, tous ceux qui sont sur dans les régions les plus proches, de vraiment tout faire pour s'organiser, pour ne pas manquer ce grand événement.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Je vous le disais dans les titres, vers la baisse du prix du kilogramme de la viande au Mali, c'est du moins l'objectif du gouvernement et les acteurs de la filière avant le mois de Ramadan. Déjà, une rencontre s'est tenue la semaine dernière entre le ministère du Commerce et l'interprofession de la filière bétail et viande du Mali. Mahamadou Doucouré, secrétaire général de l'interprofession de la filière bétail et viande du Mali, demande la sécurisation des éleveurs et la facilitation de l'accès à l'aliment bétail. Nous l'écoutons au micro de Moussa Malé Sissoko.
Le prix, c'est l'offre et de la demande. Donc, nous avons échangé sur ça avec notre ministre de tutelle, le ministre de l'élevage et de la pêche, Joubaba, qui nous a conduit même à rencontrer monsieur le ministre de la Défense. L'autre jour, c'était avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. Donc, maintenant, pour parler des prix, aucune famille seule ne peut décider les prix. Nous sommes une chaîne de valeur. Mais nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'informer, sensibiliser par rapport à un approvisionnement correct et avec un coût très raisonnable pour le Ramadan qui est très proche. Là, nous allons travailler sur ça.
journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Ils sont près de 400 supporters au compte de l'Union nationale des associations de supporters des Aigles du Mali, UNASAM, a effectué le déplacement pour Korogo, objectif donner de la voix aux Aigles à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils sont logés dans divers endroits de la ville. À Korogo, notre envoyé spécial Zamogon est allé à leur rencontre. Il nous décrit leurs conditions d'hébergement.
Le grand nombre de supporters maliens est hébergé au quartier Téguéré de Korogo, dans un bâtiment R+1. Pas besoin de se poser la question si ce sont des Maliens qui y logent, car devant le drapeau du Mali y est attaché avec le sigle de l'UNASAM mentionné en gros caractères. Ici, ils sont plus de 150 supporters. Avec l'engouement suscité, la prévision a été dépassée, nous dit Cheikhne Demba, vice-président de l'UNASAM.
On est débordé. Les supporters venus sont taqués à notre niveau. Il y a trop de monde. On ne sait pas quoi faire.
Une solution a vite été trouvée, à en croire Django Keita, qui a fait partie d'une mission de prospection de l'UNASAM avant la CAN il y a quelques mois.
Le reste des supporters venus, on a été obligé de leur chercher un endroit dans la ville pour les héberger. Les femmes et les hommes sont logés séparément et le nombre est limité. Tout va bien.
Des propos confirmés par Mme Abibatou Sidibé, cuisinière de l'UNASAM. Elle apprécie bien les conditions d'hébergement des supporters maliens à Korogo.
On est à l'aise puisqu'on a trois chambres avec douche. On est en trois groupes. On ne sort pas pour des besoins de toilettes. Les hommes sont en bas dans une grande salle. Et nous, les femmes, nous sommes dans un autre côté.
Les supporters maliens venus en nombre en Côte d'Ivoire jouer le rôle de 12e homme expriment un seul vœu, voir les Aigles remporter le trophée de cette 34e CAN. Zamongon à Korogo pour Studio Tamani.
La troisième journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a débuté hier lundi. Selon des analystes sportifs, des surprises ont marqué ces deux premières journées, notamment la contre-performance des grandes nations et la progression des petits. Kadiatou Bagayogo, journaliste sportive, pense que cette troisième journée pourrait être dure pour beaucoup d'équipes. Elle est jointe par Sita Sidibé.
Je pense qu'à l'heure actuelle, le niveau de cette compétition même, c'est du haut niveau. À l'issue de la deuxième journée, on n'a que deux pays qui sont officiellement qualifiés, à savoir le Cap-Vert et le Sénégal. Donc, cette troisième journée, je sens déjà de l'électricité en l'air. Si les grandes nations du football sont dans les problèmes parce qu'ils n'ont pas su assurer leur qualification comme c'était le cas lors des éditions précédentes. Maintenant, les équipes favoris ont eu des problèmes parce que le Ghana a été battu par le Cap-Vert à la surprise générale. Mozambique a tenu en échec l'Égypte. Ça aussi, c'était pas donné. On a vu la prestation des Mozambicains face au Cap-Verdien.
Et cette troisième et dernière journée qui a débuté hier se poursuit donc. Hier, la Guinée équatoriale a largement dominé le pays organisateur par le score de 4-0. Les éléphants doivent espérer maintenant pour être parmi les meilleurs troisièmes. Le Nigeria a battu la Guinée-Bissau 1-0 dans le groupe B. L'Égypte, malgré son nul 2-2 contre le Cap-Vert, s'est qualifié. Quant au Ghana également, tenu en échec par le Mozambique 2-2, et il est éliminé de la compétition. Aujourd'hui à 17h, Gambie, Cameroun, Sénégal, Guinée et à 20h, Mauritanie. La Mauritanie croisera le fer avec l'Algérie. La 34e édition de la CAN est en cours en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux les parieurs sportifs à pronostiquer sur les différentes confrontations. À côté figurent des vendeurs d'illusions sur les réseaux sociaux. Ces charlatans ou marabouts arrivent à attirer beaucoup de parieurs et fausser tous les pronostics. Des habitants de la capitale en parlent au micro de Khalifa Goïta.
C'est obligatoire que les gens en espèrent. C'est une question de chance aussi. Moi-même, j'avais misé.
Je connais beaucoup de personnes qui ont misé, mais qui ont tous perdu. C'est vraiment honteux que tout le monde se focalise sur votre prédiction et que cela s'avère fausse.
Si le Mali avait gagné, beaucoup de personnes allaient faire recours à ces personnes. Moi, je ne fais pas confiance aux charlatans.
Ceux qui le font sont en train de donner de faux espoirs aux gens. Ces jeux sont inutiles. Beaucoup refusent de travailler pour miser dans le pari foot.
La CAN, en une anecdote à présent, nous parle de l'histoire folle d'un défenseur du Cap-Vert sélectionné après une publication sur le réseau social LinkedIn. Idrissa Sako.
Roberto Lopez lui-même ne pensait pas porter un jour le maillot du Cap-Vert. Tout a commencé en 2016. Le défenseur natif de Dublin voit son coéquipier Ayman Ben Mohamoud, également né en Irlande, convoqué par la Tunisie. Lopez plaisante auprès de BBC Sport Africa. Moi aussi, je pouvais devenir international parce que j'avais des origines capverdiennes et j'allais remplir les papiers pour cela. En l'espace de quelques mois, il sera contacté via LinkedIn par le président de la Fédération capverdienne de football. Roberto Lopez a connu sa première sélection en octobre 2019. Depuis, le joueur de 31 ans reste un élément très important de la défense des Requins Bleus du Cap-Vert.
Alors, pour être tout à fait complet pour cet après-midi, 4 matchs sont prévus. Guinée-Sénégal, Cameroun-Gambie à 17h, Mauritanie-Algérie et Angola-Burkina à 20h. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les informations en langue Bamanankan.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le cyberespace, autrement dit les réseaux sociaux, est régi par la loi sur la cybercriminalité. Cette loi a été adoptée depuis le 5 décembre 2019. Par l'Assemblée nationale du Mali. Cependant, son existence était méconnue de nombreux citoyens. C'est ainsi que ce 10 janvier, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité du Mali a tenu une conférence de presse pour informer davantage les hommes de médias sur le fonctionnement de cette loi. Que disent ces textes et comment les journalistes et la population voient cette loi ? Des réponses dans ce magazine Gouvernance et citoyenneté réalisé par Lali Tangara avec l'apport de nos correspondants.
Le procureur en charge de cette institution définit la cybercriminalité comme étant une infraction commise sur les réseaux sociaux qui peut porter atteinte à l'intégrité physique ou à l'honneur d'une personne physique ou morale ou même des biens de l'État. Des citoyens de Sikasso, Ségou et Tombouctou approuvent cette loi. Ils pensent que certaines personnes se permettent de tout dire sur les réseaux sociaux.
La loi sur la cybercriminalité, je pense que ça tombe à point nommé parce que vu aujourd'hui l'usage abusif des réseaux sociaux où tout le monde se permet de prendre la parole.
J'utilise les réseaux, mais je ne connais rien sur les tests qui les régissent. J'aimerais les connaître pour ne pas faire d'erreur.
C'est une bonne chose pour les gens qui divulguent les fausses informations sur les réseaux sociaux.
Informer et sensibiliser les populations, un domaine voué aux journalistes selon les textes du journalisme. Mais de nos jours, les réseaux sociaux sont favorisés par une floraison d'informations. De ces faits, Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, estime que cette loi est la bienvenue. Selon lui, elle va recadrer dorénavant ce que les uns et les autres font sur les réseaux sociaux.
La mission de la Maison de la Presse, c'est d'informer les populations. C'est aussi de contribuer à la sensibilisation et à la formation des journalistes. Donc créer un tel cadre entre le pôle de lutte contre la cybercriminalité cybercriminalité qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive. Et les hommes des médias permet effectivement de créer un cadre d'échange qui permettra de mieux informer les populations et de comprendre les contours de la loi.
L'Association des professionnels de la presse en ligne du Mali, Appel Mali, trouve en cette loi des limites pour les journalistes de la presse en ligne. Pour son président Modibo Fofana, de nombreux journalistes s'autocensurent à cause de cette loi par peur de se retrouver derrière les barreaux.
Jusqu'à présent, le secteur de la presse en ligne n'est pas encore régulé par une loi. Ce vide juridique, en notre avis, nous exposait à la loi sur la cybercriminalité. Selon les propos du procureur, il nous a rassurés qu'en cas d'infraction commise par les médias, ce n'est pas typiquement que cette loi est appliquée, mais ils vont se référer sur la loi 046 et la loi 2000. Si c'est comme ça que ça doit s'appliquer, à mon avis, nous sommes partiellement protégés par cette loi.
Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité affirme que cette loi s'applique à toutes les infractions commises sur le cyberespace. Pour Adama Koulibaly, elle vise à nettoyer les dérives sur les réseaux sociaux. Il prévient que la liberté ne fait pas dire que tout est permis sur le cyberespace.
Qu'il s'agisse du cyberespace ou pas, tout ne doit jamais pouvoir se dire. Mais il y a parfois des gens qui pensent que nous sommes en train d'empêcher les gens de parler, de s'exprimer. Non, je vous rassure que ces libertés sont intactes. Et c'est seulement les excès ou en tout cas les propos de nature à inciter à la violence, à porter l'atteinte à l'honneur et à la dignité qui sont réprimés.
Le procureur du PNLC dit avoir enregistré de juin 2023 à nos jours 232 plaintes, dont 28 cas jugés et 14 procédures devant les magistrats. Les professionnels des médias en ligne espèrent qu'à travers cette loi, des dérapages déontologiques ne vont pas faire l'objet des mandats de dépôt contre les journalistes.